Il y a un article qui a été publié, d'ailleurs je réalise la date, 2 décembre 2014. Je me dis, oh, ça fait long, parce que ce que vient de dire Eric, c'est censure et autocensure en 2016, donc les attentats 2015. Finalement, 2 décembre, alors, je ne sais pas si c'est un hasard, cette date d'État, c'est l'époque. Mais 2014, c'est un mois avant les attentats. Donc un article qui est paru dans Libération, qui s'intitulait au nom du, entre guillemets, vrai public, la censure de la culture. Ce qui m'a frappé dedans, c'est comment tu rappelles, mais ça tu vas en parler un peu, comment le mot populaire, alors évidemment, mot qui nous touche ici à Avignon, chez Jean Villard, comment il est galvaudé, transformé, etc. Et puis, j'ai laissé la parole là-dessus, et puis aussi sur l'expérience de 81 avenue Victor Hugo, qui évidemment fera un lien avec Aubervilliers après, dont on posera des questions après dans un deuxième temps. Voilà.
Merci.
Merci
d'abord d'avoir invité. Comme je le disais quand on s'est rencontrés juste avant pour pouvoir préparer un peu cette rencontre, c'est un article qui a été écrit vraiment sur le coup d'une colère assez forte par rapport à un état des lieux et à toute une série d'événements. Et il y a une phrase de Brecht que j'aime beaucoup et qui dit « Il ne faut pas partir des bonnes vieilles choses, il faut partir des mauvaises choses nouvelles ». Alors ce qui est bien, c'est qu'on vit dans une époque qui nous donne vraiment de quoi se mettre sous la dent, puisque des mauvaises choses nouvelles, il y en a énormément. Et il se trouve qu'à l'époque, en 2014, il y avait une série de ce que je pourrais qualifier de mainmise policière ou de tentatives d'ingérence sur des politiques de programmation de lieux artistiques, des tentatives, voire même des déconventionnements extrêmement violents qui avaient été effectués soit par des responsables politiques, soit par des responsables d'institutions culturelles. Cette série d'événements, je vous la résume parce que depuis 2014, malheureusement, les mauvaises choses nouvelles s'étant accumulées les unes aux autres, ça fabrique aussi une amnésie de la mauvaise chose nouvelle. À l'époque, il y avait eu le déconventionnement du forum du Blanc-Mesnil suite à autre, en tout cas premier événement dans la série des mauvaises choses nouvelles, c'était la vague bleue des municipales de 2014 qui avait eu ensuite pour effet cette transformation aussi dans les rapports entre les institutions et les structures politiques. Donc il y avait eu le déconventionnement du forum du Blanc-Mesnil suite au passage de l'UMP à l'époque. Il y avait eu au niveau de Montpellier le gel de la programmation d'un lieu qui s'appelle La Panacée, que peut-être vous connaissez, qui avait été gelé pour des raisons d'élitisme, ou en tout cas d'une difficulté à rassembler un public large, nombreux et enthousiaste. Il y avait eu également la fermeture du CAC de Brétigny-sur-Orge, il y avait eu la fermeture du théâtre de Saint-Priest et le renvoi de la directrice actuelle. Enfin bref, il y avait eu 5 ou 6 épisodes comme ça en l'espace de 2 ou 3 mois qui m'avaient mis dans un état de colère avancée. Et donc j'avais essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière cet argument qui revenait sans cesse, c'est-à-dire ces lieux n'étaient pas des lieux populaires, entendus, n'étaient pas adressés à tous, sous-entendu, ne s'adressaient qu'à des bourgeois de gauche. Et donc par définition ça commençait à devenir problématique puisque ce sont les impôts qui payent ce divertissement considéré comme étant un divertissement de classe, et donc les impôts devraient payer la culture de chacun. Vous vous rappelez peut-être de ce magnifique rapport La Cloche, bien nommé La Cloche, qui avait eu cette grande pensée-là d'une culture pour chacun, c'est-à-dire d'une culture capable de répondre aussi aux spécificités de chaque désir, un peu comme le yaourt à la fraise vient pourvoir mon désir de fraise, ou le yaourt à la banane vient répondre à mon désir de banane. Et s'ajouter à ça un cadrage, j'appellerais politico-moral, des œuvres, puisqu'il y avait eu juste avant, l'année précédente, l'affaire Castellucci, il y avait eu l'affaire Rodrigo Garcia. Enfin bref, on était dans un environnement un peu nauséabond comme ça, où il y avait toute une confusion à la fois sur une approche morale, mais aussi sur une approche que je qualifierais moi de populiste. Alors pourquoi populiste ? Parce qu'en fait, derrière le terme de populaire, à chaque fois, ce qui est sous-entendu, c'est un usage sémantique spécifique du terme de peuple, qui renvoie en fait à des idées très très différentes. C'est-à-dire que si on prend le concept de populaire tel qu'il avait été forgé par nos bien-aimés descendants, nos bien-aimés anciens à savoir Génier, Villard et Vitesse après lui, c'était un concept de peuple qui répondait à une définition politique. Donc le peuple était d'abord et avant tout un peuple qui n'existait pas, donc un peuple capable de se constituer en tant que tel dans l'acte même d'une action politique, et surtout un peuple travaillé par du dissensus, c'est-à-dire que la notion de peuple est indissociable de la notion de lutte des classes, elle est indissociable des questions de domination, qu'elles soient symboliques, culturelles, politiques ou sociales, enfin bref, elle est en lien avec cette lecture-là qui met en rapport à la fois du différent et qui met en rapport aussi des questions qui sont de l'ordre des rapports de force. Et à partir de là, le projet politique qui était pensé sur la question de l'art, c'était un projet proprement émancipateur. C'est-à-dire que l'art était là pour fabriquer du nouveau, travailler à déconstruire ces zones-là de cadrage, travailler à questionner ou à mettre au jour le processus de domination et à travailler dans un ordre qui serait celui de la resymbolisation, d'un arrachement utopique à ce qui est. De ce point de vue-là, le peuple, sous-entendu par le concept démagogique de populaire, renvoie pas du tout à ce peuple politique, il renvoie à un peuple proprement moral et social, voire éventuellement économique. C'est le peuple du latin plebs. En fait, c'est la plèbe, c'est le petit peuple, c'est une lecture qui est, pour le coup, travaillée par une autre forme de mépris, puisque souvent ce qui est reproché, c'est l'élitisme. En réalité, derrière le concept de petit peuple se cache un élitisme qui est encore pire, qui est celui du mépris de classe, sous-entendu ça n'est pas pour vous. Souvent j'entends, c'est une phrase que disent certains directeurs de lieux, c'est pas pour mon public. Ah bon, c'est pas pour ton public. D'accord. Et ton public, est-ce que tu es sûr que c'est pas pour lui, finalement, cette chose-là ? Enfin, je pense que Marie-Jo en parlera bien... bien mieux que moi. Et donc, on voit là que le projet politique qui est articulé à la question de l'art, c'est plus du tout celle de l'émancipation, mais c'est celle de la satisfaction des besoins. C'est-à-dire que l'art serait là pour répondre à un ensemble de désirs et de coordonnées extrêmement segmentées, que cette pensée-là du collectif, de la culture pour tous, devienne culture pour chacun. Et alors le chacun, c'est la mère célibataire qui va regarder M6, c'est le père de famille nombreuse qui va à l'église le matin, c'est celui qui est fan de foot, c'est bref, c'est une segmentation comme ça qui paradoxalement évacue le dissensus, qui évacue la question de la lutte des classes, qui évacue toutes ces définitions qui étaient des définitions éminemment relationnelles du corps social, et donc qui nous donne l'impression d'être dans une espèce de vaste soupe où on a évacué ce que j'appellerais le processus d'individuation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a derrière la question de l'émancipation, c'est l'individuation, c'est la croyance dans la capacité de chacun à s'auto-constituer comme sujet à partir des différentes expériences qu'il va rencontrer. À l'inverse, le projet politique qui sous-tend cette pensée populiste du populaire, c'est une pensée de l'individualisme. C'est-à-dire que c'est un renoncement au sujet pour un sujet purement superficiel, en fait. C'est la pub Yves Rocher, règle numéro 1, être soi-même, en fait. C'est McDonald's et venez comme vous êtes. Vous avez 10 têtes différentes, mais en fait, au fond, vous êtes tous les bienvenus chez McDo parce que, en fait, c'est une différence de surface. Donc c'est une différence qui n'a aucune effectivité politique et il faut mieux qu'elle n'en ait pas. Bref, donc tout ça, ça m'avait énervée, et donc j'essayais de comprendre un peu ce qui se passait derrière tout ça. Et ce que j'avais trouvé assez drôle, c'était que à chaque fois, ce qui légitimait ces ingérences-là, c'était la confusion vraiment entre deux concepts de peuple. C'est-à-dire que le maire du Blanc-Mesnil avait dit, mais en fait, j'ai le droit de décider de la programmation du forum, et j'en ai le droit parce que j'ai été élue par le suffrage universel. Confusion absolue entre deux types de peuples et deux types d'adresses, sans compter le fait que si on regardait vraiment les chiffres, il avait été élu à 50% avec un taux d'abstention de 40%, donc en fait ça devait représenter à peine un quart de la ville dont il était devenu le digne représentant. Et tout ça, je crois, et c'est ce qui m'amène à parler de la question de l'autocensure, s'inscrit dans un contexte plus global qui est celui de la déroute d'une pensée critique, mais qui serait une pensée réellement affirmative, et pas seulement nihiliste, et pas seulement cynique, et dans un... Vous parliez tout à l'heure du symbolique avec Angelica Liddell, et je crois vraiment dans un... Plus globalement, dans un effondrement de nos capacités en tant qu'artistes ou en tant que ouais, que responsable éventuellement d'institution, mais à défendre une fois encore cette nécessité-là des opérations de symbolisation, qui sont à chaque fois des outils qui nous permettent de nous arracher à l'existant. Et dans ce cadre-là, je crois qu'on touche aussi à la question de l'autocensure. Parce qu'il y a différents types d'autocensure. Je pense qu'on pourrait, dans une vision un peu trop rapide, se dire « Ah mon Dieu, l'autocensure, c'est horrible, c'est mal. » Je crois qu'il y a plusieurs types d'autocensure. Il y a un premier type d'autocensure qui pourrait être ce qu'on pourrait appeler l'autocensure de contrebande. Et je crois qu'on en a terriblement besoin dans un système politique et économique comme le nôtre, qui est celui du capitalisme libéral. Et je crois que chacun d'entre nous a fait l'expérience de la formidable capacité d'absorption du capitalisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette superbe campagne de publicité d'Édouard Leclerc qui avait récupéré toutes les affiches de mai 68. En gros, la vie chère, c'était devenu la nouvelle lutte politique des années 70. Récemment, j'avais vu aussi un truc que j'ai trouvé génial. Il y a un livre de Noémie Klein qui s'appelle « Nos logos », qui est une critique de la logique marketing. 10 ans après, il y a des concepteurs de vêtements qui ont sorti la marque « Nos logos ». Je trouve ça génial, parce que ça témoigne vraiment de cette capacité de recyclage permanent des outils de contestataires, de subversion, de critique, qui deviennent en fait des purs opérateurs marketing. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on peut se retrouver avec énormément d'œuvres, de produits culturels entre guillemets, qui répondent à des coordonnées qui vont être celles du marketing contestataire, par exemple, qui vont être celles du nihilisme pop, qui vont être celles du divertissement de classe, etc., etc. Et à l'intérieur de ça, je pense que l'autocensure de contrebande, c'est aussi une stratégie pour essayer d'inventer des outils qui permettent de faire passer en douce, ou en tout cas d'offrir des outils de résistance, y compris d'ordre poétique, d'ordre esthétique, à un cadrage idéologique qui nous est globalement hostile. Quand on s'est vu la dernière fois, je parlais d'un texte qui, moi, m'inspire beaucoup, qui est un texte de Brecht, qui s'appelle « 5 difficultés pour écrire ou dire la vérité ». Je ne sais plus exactement quelle est la traduction, je crois que c'est « écrire la vérité ». Et face à ces 5 difficultés, il propose 5 qualités nécessaires. Et parmi ces qualités, il évoque la ruse. Et je crois en effet que la ruse est une des qualités nécessaires pour faire face aussi à un champ qui est globalement difficile à identifier dans ses enjeux, où la question des ennemis et des alliés n'est pas aussi claire qu'elle a pu l'être à une époque. Et cette autocensure de contrebande, par exemple, je pense qu'on en a vraiment fait l'expérience dans le cadre du 80 avenue Victor Hugo. Le 80 avenue Victor Hugo, c'est, comme le rappelait Antoine, une pièce qui s'inscrit dans le projet des pièces d'actualité portées par le Théâtre de la Commune, qui est un projet dont tu parleras sans doute, et qui consistait dans le fait de travailler avec les habitants du territoire d'Aubervilliers. Et dans le cadre de cette pièce, avec mes deux collaborateurs, Olivier Coulon-Jablonka et Camille Planier, on a travaillé avec un collectif de sans-papiers qui occupait un ancien pôle emploi à Aubervilliers. Et la pièce s'est écrite avec eux et s'est jouée avec eux au plateau. On était dans l'illégalité la plus totale. Bon, moi, je ne prenais pas le risque, c'était Marie-Jo, pour le coup. Mais il y avait vraiment une énigme qui était une énigme à la fois administrative, une énigme technique, mais aussi une énigme politique, dans le sens où on sait très bien que la bonne conscience de gauche peut très vite s'empresser de récupérer aussi des éléments qui peuvent être de cet ordre-là. Et puis l'autre problème, c'était aussi quelles informations vont être données et pour servir qui ? Parce que quand vous donnez des informations sur les stratégies de circulation, par exemple, d'une personne sans papier, si je prends un exemple très précis, la plupart des comédiens travaillaient dans la sécurité. Et la tenue d'agents de sécurité leur permettait de circuler dans l'espace public sans être contrôlés. Ben, cette technique, elle marche parce que personne ne la connaît. Le jour où vous expliquez aux agents de police qu'en fait, les 3/4 des mecs que vous voyez avec écrit « sécurité », en fait, ils n'ont pas de papier, ben, ils vont s'empresser de les contrôler. Voilà. Et donc, c'était des questions... Je prends juste un exemple, mais en permanence, des questions de cet ordre-là se sont posées. C'est-à-dire, au fond, qui va-t-on servir en révélant ces éléments ? Alors, on n'a pas répondu tout seul, on a répondu tous ensemble. Il y a eu des votes, il y a eu des discussions pour savoir est-ce que ça vous semble pertinent ou pas qu'on évoque ce point précis. Est-ce que ça, on peut ou pas le rendre communicable? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer aussi dans l'imaginaire qu'on a du sans-papier de rendre compte de ça, etc., etc. Et donc, pour moi, je pense que là, on était vraiment dans ce que j'appellerais l'autocensure de contrebande. Après, je pense qu'il y a deux autres types encore d'autocensure. Il y a l'autocensure, d'une logique de réponse à un cadre normatif, mais qui n'est même pas conscientisé en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a une telle standardisation aujourd'hui des cadres de formation, des cadres de pensée, des cadres esthétiques, que malgré soi, parfois, on peut être le pourvoyeur d'éléments qui sont déjà préconstruits et que ça demande énormément de temps de déconstruire ces éléments-là qui sont de l'ordre du langage habituel qu'on mobilise en permanence. Et puis comme ça marche, on ne voit pas pourquoi on ferait autrement. Donc ça, c'est ce que j'appellerais... c'est à mi-chemin entre l'ignorance et la volonté. Et puis après, il y a l'autocensure de complaisance. On le sait tous, être artiste aujourd'hui, c'est être confronté à des interlocuteurs qui vont être coproducteurs, qui vont être des lieux de programmation, etc., etc. Autant d'éléments qui peuvent venir interférer avec un projet artistique en tant que tel. Et toute la question, c'est de savoir à quel endroit est-ce que cette zone-là est une zone de négociation stratégique, c'est-à-dire dans quelle mesure je suis dans la contrebande, et dans quelle mesure je suis un endroit de renoncement à mon propre projet artistique. Et je pense que la ligne est parfois complexe, et qu'il y a des situations où on pense être dans la contrebande, et puis on est rattrapé par le système, malgré soi, et puis il y a des moments où on a l'impression d'être dans la complaisance, et puis en fait, on se rend compte qu'en douce, il y a des choses qui filtrent. Donc je pense que c'est pas complètement binaire. Mais... j'ai l'impression que cette logique-là de la complaisance est en tout cas amenée à se développer de plus en plus, vu la précarisation des conditions de travail. Et je crois aussi que la régionalisation va accentuer ça. Parce que la régionalisation a un effet extrêmement violent dans la mise en regard entre les artistes, les directeurs de structure et les pourvoyeurs de budget qui vont être du coup dans un rapport qui sera un rapport de frontalité. Et qui va empêcher cette triangulation qui avait des défauts, mais qui avait au moins le mérite de rééquilibrer plus ou moins le paysage. Oui, c'est ça, d'arbitrage. Je m'emballe. Mais c'était un peu tout ça que je voulais dire. Dans le sens où, pour moi, la question, c'est vraiment celle de l'émancipation, en fait. C'est-à-dire que la question de la censure, comme celle de l'autocensure, nous confronte à cet enjeu-là, qui est celui des éléments pour lesquels travaille l'art, pour lesquels travaille le pédagogue, pour lesquels travaille y compris le public. C'est-à-dire, au fond, c'est ce que vous disiez dans la table ronde précédente, on n'émancipe jamais personne. Ça n'existe pas, il le fait lui-même. On crée des conditions de possibilité pour ça. Mais je crois que là où on doit travailler, en tant qu'artiste, en tant que pédagogue, en tant que directeur de structure, c'est à créer des conditions qui vont aller vers ça.
Mais s'émanciper d'un censeur, c'est quand même une paire de manches.
Oui, tout à fait.
Si je puis me permettre, ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet du maire de Blanc-Mesnil, je disais s'émanciper d'un censeur. S'émanciper soi, c'est important, mais s'émanciper d'un censeur qui a autant de pouvoir et qui l'affirme, de manière assez violente d'ailleurs, je trouve, puisqu'il dit qu'il a le droit, en faisant référence au suffrage universel, et qu'ensuite il dit qu'il a le droit de programmer, d'accord ? Sauf que ce qu'on pourrait lui rétorquer, et c'est là qu'on entre dans la bataille, c'est, d'accord, vous avez été élu, mais est-ce que le programme en question, il était dans votre programme politique ? Non, donc vous n'avez pas le droit.
Ah, bien sûr.
C'est bête. Mais on en arrive là.
Ouais, pour moi, ça pose la question des stratégies de lutte. C'est-à-dire que, par exemple, au moment où l'article est paru dans Libération, au début, moi, j'avais écrit une version extra longue, un peu roborative. J'ai fait une version courte pour Libération parce que j'étais très énervée par ce qui se passait et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et il y avait notamment ce moment-là autour de la panacée. Et en parallèle de la publication de l'article, on avait lancé une pétition qui avait recueilli, je ne sais plus, ce n'était pas énorme, mais je crois 6 000 signataires. Ça avait suffi, en tout cas, à faire reculer Philippe Sorel, qui avait maintenu le directeur en place. Ça a pérennisé la situation de manière très précaire, puisqu'en fait, ça a pu lui permettre de continuer à diriger ce lieu en étant plus ou moins menotté, en réalité, par ses interlocuteurs, mais pendant à peu près 1 an et demi, avant, lui, de repenser le contexte global. Mais en effet, je pense que... la question de la résistance et de l'émancipation à des formes violentes est complexe.
Mais merci pour se recentrer aussi. Là, on voit que Marx reste quand même un outil intéressant pour comprendre le monde.